Franck Dixmier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. On va parler avec vous de ces marchés, hein. Alors, depuis quelques mois, l'environnement a changé sur les taux. On en est où justement après ce que vient de dire la Réserve fédérale américaine, donc marque une pause, mais ce n'était pas forcément une surprise. On en est où dans cet univers?
Oui, il y a trois éléments majeurs, hein, qui devraient façonner le futur des marchés de taux sur l'année à venir. La divergence des politiques monétaires, donc vous l'avez sous-entendu, avec une Fed qui va monter ses taux, on va sans doute en reparler, alors que la Banque Centrale Européenne ancre très très fermement les parties courtes des courbes de taux en zone euro. Le degré d'incertitude à la fois d'un point de vue macroéconomique, personne ne connaît aujourd'hui réellement avec précision le plan de relance de Trump, c'est pro-croissance, ok, mais comment le calibrer, c'est un petit peu compliqué. Et le troisième élément, c'est ce trait de reflation. Hein, la reflation de l'économie, qu'on voit d'une façon très perceptible depuis cet été. L'élection de Trump a été une espèce de catalyseur, d'ailleurs, hein, en termes d'anticipation de l'inflation. Mais ces trois éléments, véritablement, devraient influencer, avec des conséquences assez différentes, hein, les marchés de taux, à la fois aux États-Unis et en zone euro.
Oui, c'est vrai que peut-être qu'il y avait eu des premiers paris sur des dépenses d'infrastructures, sur ce fameux plan de Donald Trump, avec des sujets sur l'inflation qui allaient revenir. Il y a eu un certain nombre de paris qui ont été faits. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être ça va peut-être être un peu plus compliqué qu'un scénario tout tracé.
Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, effectivement. Enfin, quel est le potentiel de croissance supplémentaire dans une économie qui est aujourd'hui au plein emploi et qui est dans une phase du cycle déjà pratiquement à pleine maturité? Donc, c'est une question. Mais il est évident qu'une relance budgétaire dans cette situation de plein emploi devrait de toute façon se traduire par plus d'inflation. Alors, ce plus d'inflation, il n'est pas réellement encore dans les marchés. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on a parlé de ce trait de reflation. On voit des courbes de taux plus pentues aux États-Unis, des taux plus hauts qu'il y a 6 mois, très bien. Mais quand vous regardez les anticipations d'inflation dans le marché, donc à travers, par exemple, les obligations indexées sur l'inflation, vous apercevez qu'il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge parce que le marché a du mal à y croire, comme il a du mal à croire finalement aux hausses de taux à venir de la Fed. Et ça, c'est un élément assez étonnant. Les investisseurs ont toujours été assez agnostiques par rapport à ces hausses de taux potentielles de la Fed. Aujourd'hui, sur les 2 prochaines années, vous avez 4 hausses de taux anticipées, alors que la Fed nous indique, à travers ses prévisions médianes, 3 hausses de taux en 2017 et 3 hausses de taux en 2018. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap, et dans un contexte, donc une économie américaine à pleine maturité, au plein emploi, avec un plan de croissance additionnelle qui vient là-dessus, on ne peut qu'anticiper plus d'inflation. Donc ça veut dire que la Fed devra agir. Elle devra agir, mais dans un contexte politique un petit peu compliqué, parce qu'elle appuiera sur la pédale de frein, alors que Trump, lui, voudra appuyer sur l'accélérateur. Donc de beaux tweets sans doute à venir.
Oui, ça va être voilà, une année 2017 de ce côté-là intéressante pour les marchés. Vous parliez de la Banque Centrale Européenne et de cette divergence donc avec la Réserve fédérale américaine. C'est vrai que on est toujours dans ce point d'interrogation de se dire est-ce que ce krach obligataire ne peut pas venir pour les vieux boursiers, effectivement, ils se souviennent de 94 notamment, par ce fait-là. Et même s'il y a une coordination, peut-être pas suffisante.
Non, krach obligataire, on n'y croit pas du tout. Hein. On n'y croit pas du tout parce que les taux américains nous paraissent relativement proches d'un taux d'équilibre. On a quand même fortement corrigé hein, sur les taux américains. Ils ont été multipliés par 2 en moins d'un an. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. On est sur une croissance potentielle aux États-Unis qui est relativement faible là, par rapport à la croissance potentielle qui prévalait avant crise. Donc autour des 2%, hein, contre 3,5 il y a encore 8-10 ans. Et en zone euro, on a des facteurs de soutien très spécifiques, je dirais hélas, le risque politique. Hein, donc le Bund est perçu à juste titre comme un refuge pour des investisseurs en quête d'actifs sans risque. Donc ça, c'est vraiment un facteur de soutien fondamental très très puissant. Et puis l'action de la Banque Centrale Européenne. Nous, on ne voit pas du tout la BCE infléchir sa position et son discours avant sans doute 2018. Donc il est très très tôt, il est trop tôt pour anticiper réellement un changement de cap de la BCE, qui va donc conserver une influence majeure sur les marchés de taux en zone euro.
On a pu voir peut-être sur certains pays périphériques hein, ces taux montés. Bon, on est loin d'une crise en tout cas pour l'instant sur ces marchés-là, parce qu'on aurait pu se dire effectivement qu'il pouvait y avoir une tension.
On n'a pas tout à fait la même analyse là. On est quand même sur une crise rampante. Hein. Aujourd'hui, on a quand même 180 BP de différence entre les taux 10 ans italiens et les taux 10 ans allemands. Quel serait ce spread si la BCE n'achetait pas ses 60 milliards d'emprunts d'État par mois? Il serait plus haut. Il serait plus haut, mais à quel niveau? Et c'est ça la question, en fait. C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez fondamentalement la situation économique en Italie, il y a de quoi avoir un peu peur. C'est un pays qui est hyper endetté, une dette publique de l'ordre de 130% du PIB, avec une croissance potentielle, alors négative ou nulle, hein, selon les organismes de conjoncture, un pays qui a connu une inflation négative en 2016, un chômage qui est toujours un chômage de masse, une crise politique latente. Bref, la question de la soutenabilité de la dette italienne est entière, elle reste posée, elle n'a pas été traitée, hein, et c'est une occasion perdue, parce que la BCE, quelque part, a fait son travail en permettant aux États de la zone euro de se refinancer sur des niveaux de taux extrêmement bas. Mais hélas, il n'y a pas eu de réforme structurelle, qui était pourtant appelée de ses voeux par la BCE à de multiples reprises. Et donc, on peut être inquiet quand même, hein, sur l'Italie.
Alors, l'investisseur dans peut-être ce nouveau contexte 2017, vous, quelle est un peu l'allocation d'actifs qui est en train de se dessiner?
Oui, alors, bon, je parlais des taux, hein, donc sur une allocation d'actifs obligataires, d'abord, je pense qu'il y a un enseignement, ne pas shorter le bund. C'est tentant, évidemment, c'est tentant parce qu'on est encore à 45 BP, on est sur des niveaux extrêmement bas, mais encore une fois, le bund bénéficie de facteurs de soutien propres qu'il faut garder en tête. Donc, ne pas shorter le bund, nous sommes sous-pondérés sur tous les spreads de la périphérie. Je pense que, enfin, le calendrier politique devrait générer un peu de stress. Et puis la perspective quand même d'une sortie à terme, hein, de la BCE de ce programme quantitatif quand même très agressif devrait générer un peu de volatilité. Donc attention, des cours plus pentus, des taux américains plus hauts, une courbe américaine plus pentue, des indexes inflation qui devraient très très bien se comporter dans ce contexte-là, et puis une diversification sur des produits à spread qui permettent de rehausser les rendements des portefeuilles. On aime bien le high yield, notamment en Asie. Le high yield en Asie vous donne un rendement d'entre 5 et 6% pour une duration moyenne entre 3 et 3,5, 3,5 années. Donc une bonne qualité. Là, vous n'investissez pas avec un risque de taux, mais réellement sur la qualité de crédit des émetteurs. Donc pas mal de thèmes d'investissement, mais une année qui sans doute va être relativement volatile.
Eh bien, merci Franck Dixmier d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.